Bonjour et bienvenue sur le podcast Ma Pause QVT. Je suis Élise, coach chez Easy Consulting et chaque semaine, je vais vous partager des outils et des réflexions pour améliorer votre qualité de vie au travail. Installez-vous confortablement, c'est le moment de votre pause QVT. Aujourd'hui, on est accompagné de Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour Élise.
Donc déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc tu es ma première interview.
Ouais, merci à toi de m'avoir invitée.
Donc en fait, je vais d'abord te demander un petit peu de te présenter et après je te poserai quelques questions et comme je t'avais dit en privé, on échangera.
Ouais, pas de souci.
Je t'en prie, vas-y, présente-toi.
Ok, donc moi je suis Sarah, je suis formatrice et depuis le premier confinement, je me suis spécialisée dans tout ce qui est efficacité professionnelle, comment mettre en place une organisation qui soit positive, qui soit efficace pour travailler de façon optimale et pertinente. Et à côté de ça, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent créer et développer leurs projets grâce aux outils du digital. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais principalement depuis un an et demi maintenant. D'où ma présence aujourd'hui dans le podcast pour parler de l'efficacité professionnelle avec toi, Élise.
Tout à fait. Alors, première question, en quoi cela consiste d'accompagner une personne sur son efficacité professionnelle ?
Donc là, l'objectif de l'accompagnement en efficacité professionnelle, c'est vraiment de travailler sur le fonctionnement interne de la personne. On va apprendre à se connaître, à gérer un peu ses émotions, à reconnaître ses émotions pour les intégrer dans sa façon de travailler. L'idée, c'est pas juste de prendre un objectif, de mettre un plan d'action et d'y aller. C'est vraiment de prendre en compte la personne dans sa globalité et de mettre un plan d'action qui soit en adéquation avec la personnalité de la personne et de lui faire utiliser les outils qui vont lui correspondre. Donc, on travaille vraiment sur la personne en elle-même et pas que sur les outils. Je ne suis pas là à lui dire « Ok, Trello, c'est bien, donc utilise Trello ». Non, parce que peut-être que Trello ne va pas correspondre à la personne. Donc, on va aller chercher les outils qui vont lui correspondre.
D'accord. Aujourd'hui, à quoi ressemble ta routine d'organisation ?
Aujourd'hui, elle a un peu changé avec les confinements, etc. Mais principalement, je prends mon petit-déj tranquille le matin avec ma famille. Je dépose ma fille à l'école. Généralement, je fais une petite heure de sport. Donc avant, j'allais en salle de sport, mais maintenant, c'est plutôt du sport à la maison ou alors je vais courir un peu en extérieur. Et une fois que je rentre, où je me suis bien réveillée, j'ai bien pris mon rythme, etc., évidemment, je prends ma douche. Mais une fois que je m'installe devant mon ordi, je regarde mes mails, je prends ma petite liste de choses à faire pour la journée ou pour la semaine. Ça dépend dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais généralement, c'est plus la liste de la semaine. Et après, en fonction de ma motivation, de mon niveau d'énergie, parce que ça, c'est hyper important en efficacité pro, je m'attaque aux tâches qui sont en adéquation avec mon niveau d'énergie, surtout. Donc, soit je commence par des petites tâches sans importance si je ne me sens pas forcément très bien, ou au contraire, si je me sens bien motivée, etc., je commence par des tâches qui ont de l'importance.
Et ta to-do list de la semaine, tu le fais à quel moment dans la semaine ?
Je le fais le vendredi après-midi.
D'accord, ok.
Vendredi après-midi, comme ça, ça me permet de faire le bilan de la semaine qui vient de s'écouler, de voir tout ce que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire ou que je n'ai pas fait, tout simplement, parce que je procrastine bien aussi, des fois. je fais le bilan de ma semaine, je regarde ce qui me reste à faire ou ce que j'ai déjà fait. Et puis, du coup, je prépare la semaine suivante de cette façon, tout en gardant mon objectif du mois dans un coin de ma tête.
D'accord. Et l'objectif du mois, c'est pareil, tu le fais juste avant le mois suivant.
Ouais, c'est ça. Généralement, la dernière semaine du mois, je prends un temps pour faire le bilan du mois cette fois-ci, reprendre mes objectifs de l'année, que j'ai découpé en objectif trimestre. Donc, c'est un peu très, très, très hiérarchisé. Et en fonction de cet objectif du mois, je prépare mes différentes semaines pour que mes actions soient toujours pertinentes et que je ne travaille pas dans le vide.
D'accord. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Comme tu sais, moi, j'accompagne des personnes qui sont en situation de maladie chronique, etc. maladie chronique veut dire fatigue chronique. Est-ce que tu penses qu'il est possible, même si l'on est fatigué chroniquement, d'être efficace dans son travail?
Oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment comprendre son fonctionnement interne. Donc, moi, je pars du principe qu'il y a quatre niveaux d'énergie. Donc, il y a l'énergie qui est physique, où là, on va parler de sommeil, de sport, de fatigue vraiment physique. On a aussi une énergie un peu plus émotionnelle, où là, c'est toute la confiance qu'on va accumuler, l'énergie que va nous procurer nos proches, notre famille, nos clients, aussi nos collègues, etc. On a aussi une énergie qui est plutôt intellectuelle. Donc là, c'est vraiment, on va prendre en compte toutes nos connaissances, nos compétences, nos expériences, etc. Et ensuite, on a l'énergie qui, elle, va être plutôt une énergie de motivation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des objectifs? Est-ce qu'on va se lancer des défis? Est-ce qu'on peut se challenger, etc. Donc, dans le cas d'une fatigue chronique ou d'une maladie chronique, le plus important, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on fonctionne et de bien repérer nos différents états. Parce que même si on est fatigué chronique, il y a forcément des moments où on le sera un peu moins. Et du coup, c'est de repérer ces différentes fluctuations et de voir dans quel état je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc là, il y a un travail plus important sur la personne à faire pour vraiment qu'elle se connaisse par cœur sur le bout des doigts.
Et justement, dans la formation que je propose, le premier module, c'est vraiment comment se connaître et comment trouver ces phases d'énergie hautes pour pouvoir accomplir des tâches plus compliquées ou sinon pour pouvoir justement juste travailler parce qu'on est dans une énergie un petit peu plus haute que d'habitude. Aujourd'hui, imaginons que je viens car j'ai un problème de fluctuation d'énergie et que je n'arrive pas du tout à tenir mes engagements professionnels. Qu'est-ce que tu me proposes ?
La première chose, c'est d'analyser ces fluctuations d'énergie, de voir pour quelles raisons ça fluctue autant. Donc, est-ce que c'est lié à la maladie chronique ou est-ce que c'est lié à autre chose? Et en fonction de ça, on va repérer, comme je disais tout à l'heure, repérer ces phases d'énergie haute, d'énergie basse pour justement axer le planning de choses à faire pour travailler de façon la plus optimale et la plus pertinente possible. Après, en fonction des différentes fluctuations des phases hautes, des phases basses, il y a aussi les temps de pause parce que quoi qu'il arrive, c'est humainement impossible d'être à 100% toute une journée. Même pour quelqu'un qui n'a pas de maladie chronique, il ne peut pas être à 100% de 8h à 18h, ce n'est pas possible. Il y aura aussi des phases hautes, des phases ascendantes, des phases descendantes. Et là, en fait, il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à s'écouter, faire des pauses, aller marcher, prendre l'air, etc. On va éviter de manger une barre de céréales parce que sinon, dans 3 ans, on finit tous obèses. Mais voilà, c'est vraiment prendre l'air, faire des pauses, faire des micro-siestes, s'écouter et surtout apprendre à ne pas culpabiliser parce qu'on a arrêté notre phase de travail. Donc, du coup, il y a vraiment ce double travail, se connaître pour identifier les phases hautes, les phases basses. Et il y a un deuxième travail qui est sur tout l'état d'esprit, c'est comment je fais pour ne pas culpabiliser parce que là, je suis pas en état de travailler.
Tout à fait. Alors là, oui, ça rentre en plein dans tout l'accompagnement que je propose, toute la formation, etc. C'est vraiment, on est en plein dedans. Mais toi et moi, on est entrepreneurs. On a la possibilité de gérer un petit peu notre temps comme on veut. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai la possibilité, quand je suis en phase vraiment down, d'aller faire une sieste. Alors toi, tu parlais de micro-sieste. Moi, j'avoue que j'y arrive pas aujourd'hui. Donc, c'est pas des micro-siestes. Je refais ma nuit complètement. Mais comme tu dis, nous, on a la possibilité de gérer un petit peu notre temps comme on veut. Est-ce que tu penses que cette gestion-là que tu proposes, est-ce que tu penses qu'elle peut s'inscrire en entreprise?
Alors, ça peut s'inscrire, mais tout dépend de comment est gérée l'entreprise. Déjà, je pense qu'il y a une notion de transparence avec son patron, ses collègues, de leur dire « Oui, mais moi, j'ai une maladie chronique, donc je suis fatiguée plus souvent que toi. » Donc, c'est quelque chose que le patron doit prendre en compte. Après, c'est vrai que le domaine de l'entreprise, moi, je le connais un peu moins, mais est-ce que le patron est capable d'aménager le temps de travail? J'imagine que oui. Enfin, il y a des dispositifs pour ça. Après, là, je ne pourrais pas rentrer dans plus de détails là maintenant. Mais voilà, il y a vraiment une question de transparence, c'est de prévenir le patron. Voilà, moi, j'ai une maladie, j'ai un rythme qui est un peu particulier. Donc, comment est-ce qu'on peut le prendre en compte? comment est-ce que je peux travailler de façon la plus optimale possible en prenant en compte cette fatigue qui arrive beaucoup plus souvent que chez les autres personnes qui n'ont pas cette maladie.
Totalement. J'entends déjà certains auditeurs qui diront « Oui, mais si je parle de ma maladie chronique, il est possible que je sois virée, etc. » Je pense honnêtement que tous les patrons ne sont pas des monstres. Donc, si on arrive à présenter notre motivation, nos compétences, qu'on arrive à les mettre en avant, que nos services sont bons, qu'on arrive à travailler, qu'on travaille bien, et qu'on dit au patron, bah voilà, moi je travaille de telle manière, je suis comme ça, mais c'est vrai que j'ai besoin d'un temps de pause un petit peu plus long que les autres, ça n'enlève en rien la qualité de mon travail.
Tout à fait, exactement.
Si on arrive à présenter ça comme ça, je vois pas, à part si c'est une mauvaise personne, et dans ces cas-là, je pense qu'il serait temps de réfléchir à voir s'il n'y a pas une autre entreprise qui peut vous accueillir. Je ne pense pas que le patron va vous virer parce que vous avez pris une pause un peu plus grande. Bien sûr, on parle des métiers qui sont sédentaires, des métiers qui sont dans un bureau face à un ordinateur. Pour les personnes qui sont en usine ou les personnes qui ont des pauses délimitées, là, il faut vraiment que ça se fasse au cas par cas.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, les patrons, justement, ils vont être friands de cette démarche parce que ça va montrer que vous êtes dans une démarche de faire du bon travail, en fait. Le fait que vous preniez en compte votre propre rythme et que vous disiez au patron « Oui, mais là, je ne peux pas parce que mon corps ne va pas suivre », le patron, il va se rendre compte que si vraiment il vous force à faire du travail dans cet état-là, le travail ne sera pas de bonne qualité et ça n'a aucun intérêt pour un patron d'avoir un travail de mauvaise qualité. Donc, autant qu'il vous donne une pause supplémentaire ou un aménagement d'horaire ou autre chose pour que vous soyez en mesure de fournir du travail de bonne qualité.
Et il faut savoir aussi que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'absentéisme, c'est quelque chose qui coûte très cher à l'entreprise. Donc, s'il voit que vous êtes à bout de souffle, il ne va pas vous pousser encore pour que vous soyez absente 2 semaines plus tard.
C'est ça.
Donc, on va arriver à la dernière question. Quels sont tes 3 conseils principaux aujourd'hui pour être plus efficace dans son travail malgré la maladie chronique ?
Donc déjà, le premier conseil, c'est de s'écouter. C'est vraiment d'écouter son corps. Au bout d'un moment, bah, quand on n'en peut plus, on n'en peut plus, donc ça, on arrête. On arrête de faire des efforts. On va, si on est en entreprise, eh ben, on prévient ses collègues que là, on a besoin d'une pause. On prévient son patron s'il est présent aussi. Si on est entrepreneur, bah, du coup, c'est beaucoup plus simple. On arrête de travailler, on va faire un tour dehors, on va faire une sieste, enfin voilà. Donc, premier conseil, c'est vraiment on s'écoute. On s'écoute et on ne va pas essayer d'aller plus loin que ce que son corps nous permet. Deuxième conseil, c'est vraiment de réussir à analyser ses phases ascendantes et ses phases descendantes pour mieux optimiser sa gestion du temps derrière. On entend souvent dans les conseils qu'on peut lire sur Internet que pour être efficace, pour travailler de façon optimale, il faut gérer son temps. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut d'abord gérer son énergie pour ensuite pouvoir gérer son temps. Après, c'est une petite vision que j'ai particulièrement, mais parce que gérer son temps quand on ne gère pas son niveau d'énergie, bah, ça n'a pas trop d'impact et pas trop d'intérêt, enfin, selon moi, évidemment.
Totalement d'accord.
Donc, du coup, voilà, premier conseil, on s'écoute. Deuxième conseil, on gère son niveau d'énergie. Et troisième conseil, bah, c'est on se fait plaisir aussi. On se fait plaisir, c'est que eh ben, si à un moment, on n'a pas envie, eh ben, on ne le fait pas, on ne se force pas, bah, parce que ça ne marchera pas bien. Donc voilà, c'est on se fait plaisir et plus on sera plaisir, plus ce sera efficace et pertinent ce qu'on fait.
Donc, ça, non, voilà, juste pour revenir sur la notion de plaisir, on va juste faire un lien avec l'entreprise et pas l'entrepreneuriat. Il est toujours possible quand on est en énergie pas trop haute ou qu'on est en énergie haute mais qu'on n'est pas forcément motivé, de faire des tâches qui nous plaisent ou qui nous plaisent plus que d'autres. Donc, en fait, là, l'intérêt de dire que l'on se fait plaisir, c'est de prendre les tâches sur notre to-do list professionnelle, de prendre les tâches, en fait, qui vont nous apporter plus de plaisir que d'autres lorsque l'on est en basse énergie. Et de prendre les tâches qui demandent plus d'efforts, psychologique et de motivation plus tard, quand on sera en plus grande énergie. Bien sûr, il y a les situations de deadline que nous, on a aussi. Et dans ces cas-là, pour l'organisation, on fait comme on peut. Comme on peut, surtout quand on est en énergie basse et qu'on est malade chronique. On fait comme on peut. Et surtout, ce que j'aime bien ce que tu dis, c'est qu'on ne culpabilise pas. Ouais, je pense que la culpabilité de ne pas pouvoir bouger, de se sentir encore malade, encore fatigué, etc., c'est ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui.
Ouais. Alors, c'est sûr que parler de culpabilité, de ne pas culpabiliser, aujourd'hui, c'est facile pour nous de le dire en interview comme ça. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, là, je reviens à mes 4 niveaux d'énergie dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a l'énergie physique. Donc là, bah, on écoute son corps, on n'a pas trop de choix. Et là, pour la culpabilité, du coup, bah, je reprends l'énergie de motivation. L'énergie de motivation et l'énergie émotionnelle, où bah, là, on va essayer de s'entourer de tout ce que nos proches, nos collègues, notre patron peut nous apporter pour justement avoir ce petit élan de motivation et se dire « Ok, j'ai pas fait ça parce que j'étais dans une énergie basse, c'est pas grave. Mes collègues autour de moi ne me le reprochent pas. Mon patron ne m'a rien dit. Tout se passe bien pour tout le monde. » Et bien, dans ces cas-là, j'ai aucune raison de culpabiliser parce que j'ai pas fait la tâche en question au moment où c'était ou au moment où je devais la faire.
Totalement. Bon, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup, Sarah. Comment tu te sens ?
Avec plaisir. Bah, écoute, je me sens bien. Enfin, moi, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures. Donc, du coup, trop bien.
J'avoue que c'est vraiment un sujet intéressant. Mais comme je fais des podcasts courts en général, c'est pour ça que je n'ai pas pris trop de questions. Mais ça n'engage en rien. Donc, on pourra faire d'autres interviews si t'es motivée. Ah, ouais. J'espère que l'épisode vous a plu malgré le son un peu défectueux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre avis, les 5 étoiles et à vous abonner pour les plateformes qui le permettent. Pour aller voir le travail de Sarah, vous pouvez aller sur son site sarahadou.com. Elle est également sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Je vous mets toutes les informations dans la description. Je vous souhaite une belle journée. Et d'ici le prochain épisode, si besoin, je ne suis pas très loin.